Vous écoutez Radio Auraviv, la radio plus près de vous, et c'est le moment de retrouver l'émission Le Temps de l'Histoire, présentée par Gérard Levin, en collaboration avec Radio Auraviv Toulouse.
Bonjour, voici votre émission Le Temps de l'Histoire. Toujours sur le thème de la diaspora, aujourd'hui je vais vous parler de Cyrus Arkhomini, les Juifs d'Iran. Si l'on devait demander à un juif iranien ce qui symbolise le mieux l'héritage historique de sa communauté, il évoquerait sans doute le souvenir de Cyrus le Grand, vers 600 avant notre ère. Le premier souverain de l'Empire Achéménide, qui autorisa les Juifs exilés à Babylone à retourner en terre d'Israël et à y rétablir le temple de Jérusalem. Ou peut-être choisirait-il de rappeler l'histoire de la reine Esther et de son cousin Mardoché, les héros du livre biblique d'Esther, dont l'action se situe à Suse, capitale de l'Empire Perse, à la cour d'Ahasuérus. Ce ne sont certes pas les épisodes historiques ou mythiques qui manquent quand on se penche sur le passé de cette communauté vieille de 2500 ans. Au cours de cette longue période, les Juifs de l'espace culturel iranien, qui déborde largement le territoire de l'actuelle République islamique d'Iran, ont fait leur la langue persane et se sont inspirés de son éblouissant patrimoine littéraire pour en composer à leur tour poèmes et œuvres religieuses. Aujourd'hui encore, qu'ils vivent sous le régime islamique ou qu'ils aient fui la révolution de 1979, les Juifs iraniens sont extrêmement fiers de leur iranité et ne manquent jamais une occasion de souligner leur présence plurimillénaire au sein de cette culture et leur espoir de voir un jour reconnue leur contribution au génie persan. Les Juifs d'Iran se considèrent comme les descendants de ces exilés judéens de l'époque babylonienne qui, à l'époque de Cyrus, auraient choisi de rester sur le plateau iranien plutôt que de s'en retourner à Jérusalem. On ne sait rien de la vie des Juifs sous l'Empire Achéménide. Aussi bien les sources de personnes contemporaines sont-elles perdues et toute notre connaissance de cette période dépend-elle des sources grecques qui ne s'intéressent pas à ces questions. C'est seulement à partir de l'époque parthe, vers 250 avant notre ère, et nous rencontrons un certain nombre de témoignages de la présence de communautés juives et leur diffusion dans de nouvelles régions de l'Empire à la faveur de circonstances politiques et religieuses favorables. L'administration parthe fonctionnait sur un modèle féodal qui laissait aux minorités un large degré d'autonomie, ce qui leur permit de prospérer et de s'étendre de près leur noyau mésopotamien. La chute de la monarchie parthe et l'ascension des Sassanides marquèrent également le début pour les Juifs de Mésopotamie de l'ère Talmudie, puisque c'est sous leur règne que fut composé le Talmud de Babylone, le plus important texte juif après la Bible. L'immense corpus, le Talmud fourmille d'anecdotes mettant en scène les souverains perses, comme Sapour II, qui nous révèle les relations souvent cordiales qu'ils entretenaient avec leurs sujets juifs. Les changements dynastiques finirent cependant par faire entrer les Perses en conflit armé avec leurs voisins, l'Empire byzantin, dans une confrontation incessante jusqu'à la conquête islamique, et a livré à la désolation de vastes régions allant de la Mésopotamie à l'Asie mineure, en passant par la Syrie, dans lesquelles de nombreux juifs résidaient. La conquête arabe du 7e siècle fit chuter l'Empire sassanide, qui, en redéployant largement ses structures administratives au profit d'une nouvelle entité politique en construction, le califat islamique. Sous ce dernier régime, les communautés juives, mais aussi chrétiennes et zoroastriennes, se virent attribuer le statut de dhimmi. Entre la fin du 7e et le début du 8e siècle, les juifs de l'ère iranienne virent émerger en leur sein de nombreuses tendances sectaires et mouvements messianiques, ce que les historiens attribuent à la rencontre entre l'islam nouveau et les religions préexistantes sur les territoires perses. La fondation au début du XVIe siècle de l'État safavide, qui imposa le schisme duodécimain comme religion officielle sur tout le territoire perse, mit notamment en avant un principe rituel jusqu'à rarement appliqué, celui de l'impureté de tous les non-musulmans. Les juristes chiites recommandaient ainsi d'éviter tout contact avec les juifs, les chrétiens ou les zoroastriens et élaboraient des règles détaillées pour se purifier le cas échéant. Les conséquences de cette législation religieuse nouvelle se firent sentir dans les domaines légaux et sociaux. La vie des Juifs en Iran sous les Safavides est généralement dépeinte comme une existence précaire, fait de persécutions et de conversions forcées. Les historiens ont en général peu porté attention au phénomène de conversion individuelle ou collective des Juifs iraniens à travers d'autres religions, ce qui explique par des obstacles méthodologiques ainsi que par la rareté des sources historiques. La conversion et l'apostasie sont des objets socio-religieux complexes dont les motivations doivent être rapprochées avec les outils de l'anthropologie, de l'économie et de la théologie. Dans le cas précis des Juifs d'Iran, il faut également bien avoir à l'esprit qu'il s'agit d'une minorité religieuse en but à des persécutions. En ce qui concerne la période safavide, nous disposons de deux sources judéo-persanes qui nous livrent un témoignage unique de ces périodes de conversion collective forcée à l'islam. Le premier s'appelle « Le livre des convertis de force », qui relate les persécutions sporadiques que subissent les Juifs d'Iran entre 1617 et 1662, qui conduisirent un certain nombre d'entre eux à devenir des hanoussines, des convertis de force qui continuaient à pratiquer le judaïsme en secret. La seconde chronique, c'est le livre des événements du Kashan touchant les Juifs, la seconde conversion. Elle narre comment entre 1729 et 1730, les Juifs du Kashan ont fait le choix de se convertir à l'islam afin de sauver leur communauté des persécutions qui s'annonçaient du fait d'une situation politique particulièrement instable. L'Empire russe s'était en effet lancé dans la conquête du Caucase et la fin de la dynastie safavide était proche. Les sources historiques sont plus riches concernant les autres épisodes de conversion forcée qui marquent la mémoire des Juifs d'Iran. Celle de la ville sainte de Massad en 1839, au cours du mois de Muharram, un juif se retrouva accusé d'avoir volontairement offensé les sensibilités religieuses chiites. Les musulmans s'en prirent alors aux juifs, normal, c'est dans l'histoire ça. Ils en tuèrent 32, en blessèrent de nombreux autres et forcèrent le reste à se convertir à l'islam. Certains parvinrent à s'enfuir et se réfugièrent à Herat en Afghanistan, tandis que ceux qui demeurèrent sur place furent désormais surnommés les nouveaux musulmans. Cet épisode a marqué définitivement le judaïsme iranien, si bien que les juifs de Massad sont aujourd'hui la communauté la plus étudiée d'Iran, alors même que le dernier juif a quitté Marad à la fin des années 1940. Maintenant, chers amis, je vais vous proposer quelques notes de musique iranienne traditionnelle. Prenons le fil de notre histoire. En effet, en marge de ces épisodes de conversion forcée et purement formelle, on connaît également des cas de conversion volontaire et sincère. Le phénomène le mieux attesté est celui qui a vu un nombre non négligeable de Juifs d'Iran se convertir à la foi baïte entre la fin du XIXe siècle et le milieu du XXe siècle. Le baïsme, né d'une évolution interne de l'eschatologie chiite, est une nouvelle religion fondée en 1863. Elle se caractérise par son progressisme et son universalisme. Il semble que la notion de révélation progressive et l'annonce de la venue d'un sauveur aient particulièrement séduit les Juifs qui y virent la promesse de la fin de leur malheur séculaire. Le fait que le baïsme s'avère plutôt tolérant envers les identités fluides leur permettait également de ne pas rompre leurs attaches communautaires et familiales, voire de conserver leurs anciennes pratiques religieuses. À la fin de la chute des Safavides d'Iran, l'Iran connut 7 décennies d'instabilité et d'insécurité auxquelles mit fin l'instauration de la dynastie Qajar. Malgré les efforts des souverains Qadjars pour améliorer la condition de vie des Juifs et garantir leur sécurité ainsi que leurs droits et leur accès aux services de l'État, la condition générale des communautés ne s'améliorera pas vraiment. Celles-ci connurent un déclin démographique très important. Ils passèrent de 100 000 âmes dans la seconde moitié du XVIIe siècle à moins de 20 000 dans les années 1820. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, diverses institutions juives créées à Londres et à Paris prirent sur elles de venir en aide aux communautés iraniennes. Elles furent suivies quelques années plus tard par la révolution constitutionnelle iranienne qui abolit le Dima et attribue aux minorités non musulmanes les représentants au Parlement. Le XXe siècle fut également marqué par des changements radicaux. La révolution constitutionnelle, déjà évoquée, la chute de la dynastie Qadjar et l'ascension de la dynastie Pahlavi, qui fut elle-même renversée par la révolution islamique. Les Juifs bénéficièrent sur le plan social et économique de la laïcisation et de l'occidentalisation du pays initié par Reza Shah Pahlavi et son fils, que nous connaissons beaucoup mieux, Mohammad Reza Shah, disparu, destitué en 1979. À la veille de la révolution islamique, la communauté juive d'Iran comptait environ 100 000 individus, faisant d'elle la plus importante du Moyen-Orient en dehors d'Israël. La plupart des juifs ont fui l'instauration du nouveau régime et on en dénombre aujourd'hui entre 10 000 et 15 000, essentiellement à Téhéran. Leur liberté de religion est garantie par la loi. De plus, la communauté organise ses propres cours d'hébreu et de Torah. La position radicalement antisioniste du régime est bien connue. Elle est au demeurant ancrée dans sa logique politique révolutionnaire anti-impérialiste et n'a pas recours à des arguments religieux comme le fait l'islamisme sunnite. Les Juifs d'Iran ne sont pas libres d'exprimer la moindre sympathie pour le sionisme et l'arrestation en 1999 de 13 Juifs iraniens pour espionnage au profit des États-Unis et d'Israël reste dans les mémoires. En dehors de cela, les autorités iraniennes tentent plutôt à multiplier les marques de tolérance envers la communauté juive locale afin de bien démarquer son antisionisme de tout antisémitisme. Par autre chose, le judéo-persan, c'est-à-dire une variante de la langue persane, était transcrite en caractère hébraïque et fut longtemps le mode d'expression écrite et privilégié par les juifs de l'ère culturelle iranienne, et ce jusqu'à ce que les juifs intègrent plus pleinement à la société iranienne dans la première moitié du XXe siècle et adopte l'usage du persan. La fête de Pourim, observée les 14 et 15 Adar par tous les Juifs du monde, célèbre le sauvetage des Juifs d'Iran par la reine Esther et son cousin Mardoché. Les accents de cette histoire se situent dans l'antique capitale de Suse. Une tradition spécifique aux Juifs d'Iran veut que ces deux principaux protagonistes soient enterrés à Hamadan, une cité située à 280 km au sud-ouest de Téhéran. Il existe encore d'autres pèlerinages de moindre importance, dont celui de Sarah ben Ashtar, la petite fille de Jacob, personnage biblique. Le tombeau de Daniel, lui aussi très ancien, est pour sa part situé dans la ville moderne de Suse, située à proximité de l'antique Suse. Dans la mesure où la figure biblique de Daniel est aussi révérée par l'islam comme celle d'un prophète, ce site opère comme un centre de pèlerinage aussi bien musulman que juif. D'ailleurs, je vous remercie pour votre attention et au plaisir de vous retrouver. Merci.
Aura vive, plus près de vous.